à cette sainte semaine, invitée par l'Assemblée évangélique du Nord, de Terrebonne, et que j'étais venue dans ce lieu pour écouter avec vous la parole de Dieu, dont moi-même, personnellement, j'ai besoin de réentendre et de mieux comprendre chaque jour. Je vous ai dit que je ne vous ferai pas de grands exposés théoriques, mais que j'essayerai de me mettre avec vous à l'écoute du Seigneur et des Écritures pour laisser les Écritures, la parole, corriger mes pensées, m'instruire, me convaincre, car il est dit que toute l'Écriture est inspirée de Dieu et qu'elle est utile justement pour nous instruire, pour nous corriger, pour nous convaincre et nous rendre propres pour accomplir toute bonne œuvre. Et le thème qui m'avait été proposé était ce texte que vous connaissez bien maintenant, examiner les choses qui sont agréables ou examiner ce qui est agréable au Seigneur. Ce matin, je ne m'en vais pas commenter beaucoup de versets bibliques, mais je m'en vais vous lire ces versets et je vais les écouter avec vous. Et je vous en supplie, écoutez cette parole. Je demande au Saint-Esprit, qui est notre mémoire, que vous puissiez enregistrer ces paroles dans vos cœurs. Vous les retrouverez dans votre Bible. Seigneur notre Dieu, nous sommes devant toi. Des hommes qui n'avons rien en nous, mais qui avons tout en toi. Et nous te demandons de nous remplir de ton esprit, afin que nous puissions saisir ta parole et que nous repartions d'ici non pas avec les idées d'un homme mais ayant entendu ta parole, que nous puissions avoir le désir d'examiner chacun de nous si l'on est réellement ainsi, pour que tu nous amènes à une conviction profonde et que tu nous conduises à accomplir ta volonté et à t'être ainsi agréable. Pour la gloire du Père, au nom de ton Fils bien-aimé et par la toute-puissance du Saint-Esprit. Amen. Nous ayons cité le texte qui est le thème de cette retraite, chapitre 5 des Éphésiens, verset 6, « Examinez ce qui est agréable au Seigneur. » Je vais vous lire maintenant dans la première épître de l'apôtre Pierre. Et je vous demande d'écouter cette parole. Je n'aurai pas à la commenter. Chapitre 2. « Rejetons donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que
par lui, vous croissiez pour le salut. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. On retrouve le mot agréable. Car il est dit dans l'Écriture, voici je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. Qui est cette pierre? C'est Jésus. L'apôtre Pierre lui-même nous dit, c'est lui hein, qui écrit. La pierre angulaire, c'est Jésus. Pierre, l'apôtre, est une des premières pierres sur la pierre angulaire. Et chaque personne qui croit, la confession de l'apôtre Pierre, qui a dit, quand Jésus a demandé, que pensez-vous du Christ, que pensez-vous de moi, Pierre a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alors, si on croit ce que l'apôtre Pierre a dit, on devient nous-mêmes une pierre sur la pierre vivante. Et bien sûr, on est avec Pierre lui-même. Verset 6. Il est dit dans l'Écriture, voici je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, celui qui croit en elle ne sera pas confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, parce qu'il y a des incrédules, pour les incrédules, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la pierre de l'angle et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Qui? Ceux qui croient, hein? Vous êtes une race élue. Un sacerdoce royal. Une nation sainte. Un peuple acquis. Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Qu'est-ce qui est lumière? Jésus. Je suis la lumière. Et nous voulons nous laisser éclairer par lui. Nous sommes amenés des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Et je souligne cette parole. Vous-même, verset 5, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus. Maintenant, nous venons dans l'Épître aux Hébreux. Au chapitre 12e. Verset 28. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété. Qu'est-ce que c'est que la piété? C'est une relation réelle avec le Seigneur. C'est pas simplement une connaissance, une information au sujet du Seigneur. Connaître le Seigneur, c'est être en relation avec lui. C'est ça la piété. Une relation quotidienne avec le Seigneur. Donc, il est question de lui rendre un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte. Pour quelle raison? Parce que notre Dieu est un feu dévorant. C'est pas avoir peur de Dieu, mais avoir le respect de Dieu. Le respect de sa parole. Et maintenant, au chapitre 13e, à partir du verset 10, nous avons un autel dont ceux qui font le service au tabernacle n'ont pas le pouvoir de manger. Les corps des animaux dont le sang est porté dans le sanctuaire par le souverain sacrificateur pour le péché sont brûlés hors du camp. Et c'est donc, c'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple, c'est-à-dire de le mettre à part, par son propre sang, a souffert hors de la porte. Vous savez qu'il a été crucifié hors de la porte de Jérusalem. Sortons donc pour aller à lui, hors du camp, en portant son opprobre, car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confesse son nom. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Puis, et ce sera mon vœu pour vous tous, car je devrai vous quitter avec ma femme immédiatement après le culte, notre fils devant partir pour cette semaine en Afrique ce soir. Et nous désirons le revoir avant son départ. Verset 20. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang de l'alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de tout bonheur pour l'accomplissement de sa volonté et fasse en vous ce qui lui est agréable. Par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Que Dieu bénisse cette parole et qu'elle ait vraiment une puissance dans notre cœur. Je me suis efforcé hier soir de vous montrer, selon les Écritures, toutes les choses qui pouvaient être agréables au Seigneur. Et nous avons cité en particulier le psaume 69, qui nous dit que ce qui plaît au Seigneur, plus que des taureaux, c'est la louange. La louange, l'action de grâce, la reconnaissance, où le cœur déborde pour dire à Dieu qui nous a donné son Fils unique, pour dire au Seigneur qui nous a donné quoi ? Sa vie, que nous l'aimons, lui qui nous a aimés le premier. C'est ça la louange. Et nous entrons alors dans une véritable adoration, qui peut être une adoration silencieuse, mais qui peut aussi s'exprimer par nos lèvres, ce fruit des lèvres qui confesse le nom du Seigneur. Offrons donc sans cesse à Dieu ce sacrifice de louange, le fruit des lèvres qui confesse son nom. Pas seulement dans une église, dans un culte, dans une assemblée, mais où que nous nous trouvions, que nos lèvres puissent confesser le nom du Seigneur. Nous allons parler ensuite d'une autre chose qui est agréable au Seigneur, c'est le rassemblement de ses enfants. Psaume 133. Il est bon et il est agréable que des frères demeurent ensemble. Et il est dit que c'est là que l'Éternel a commandé la vie et la bénédiction pour l'éternité. Donc l'unité des croyants, l'unité de ceux qui aiment le Seigneur, c'est une chose bonne qu'ils soient ensemble. Nous avons parlé aussi des égards que nous devons avoir envers les croyants faibles. Ne rien forcer. Et savoir peut-être même nous priver de certaines choses pour que les autres puissent croître, pour que les autres puissent grandir, pour que les autres aient le temps de se fortifier dans le Seigneur. Il faut commencer par le lait, comme on donne aux petits-enfants. Vous ne commencez pas à donner de la viande à des bébés, ce serait une folie. Vous avez assez de sagesse pour savoir qu'un bébé ne peut pas encore manger de la viande. Alors vous lui donnez d'abord du lait, le pur lait spirituel. Ça, c'est une chose agréable au Seigneur, avoir des égards pour les faibles, ne rien forcer. Puis nous avons vu que une chose qui est agréable au Seigneur, c'est que nous puissions lui offrir nos corps. Romains chapitre 12. Nos corps en sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu. Et nos corps, eh bien, c'est nos membres, c'est nos yeux, nos oreilles, nos lèvres, notre cœur, pour que Dieu puisse se servir de nos corps dans ce monde, pour manifester sa présence. Il s'est servi de son Fils bien-aimé, qui a eu un corps, qui a pris un corps pour se manifester au milieu du monde. Et maintenant qu'il est parti auprès de son Père, comment est-ce que Dieu se manifeste ? Par ceux qui croient en son Fils et qui deviennent vraiment membres de son corps. Nous avons vu ensuite qu'il y avait aussi nos biens qui sont une chose agréable au Seigneur. Non pas seulement offrir nos corps, mais aussi nos biens. Et nous l'avons constaté de nouveau dans l'Épître aux Hébreux. N'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité. Savoir aussi faire part de nos biens pour soutenir l'œuvre de Dieu, comme l'apôtre Paul le dit lui-même aux Philippiens, au chapitre 4, c'est une chose qui était agréable à Dieu, ce sacrifice qu'il s'était imposé pour soutenir l'apôtre Paul qui était prisonnier à Rome et qui avait tout un ministère.
Et c'était par lui qu'ils avaient été amenés au Seigneur. Nous avons vu aussi qu'une chose qui est agréable au Seigneur, c'est l'obéissance de nos enfants. Enfants, obéissez à vos parents, c'est une chose agréable au Seigneur. Colossiens 3, verset 20. Nous avons vu aussi qu'une vie de prière, prier pour tous les hommes, et spécialement pour les autorités, que c'était une chose que Dieu agrée, qui plaît au Seigneur. 1 Timothée chapitre 2. Puis nous avons vu aussi que prendre soin des siens était agréable au Seigneur. On a peut-être une vieille maman, un vieux papa, eh bien, on ne s'en débarrasse pas. Si on est vraiment croyant, il est dit qu'on doit apprendre à montrer notre piété envers les gens de notre propre maison. Ça, c'est agréable au Seigneur. Donc, vous voyez, tout cela, c'est des choses pratiques qui touchent notre vie quotidienne. Mais surtout, on est arrivé à constater que pour être agréable au Seigneur, qu'est-ce qu'il faut ? La foi. Mais pas une petite foi, hein, pas une croyance seulement, comme on dit « je crois que Dieu existe », mais réellement croire ce que Dieu dit, croire ce que sa parole déclare, prendre Dieu au mot. Alors, on est sauvé donc par la foi, c'est-à-dire en croyant ce que Dieu nous dit au sujet de son Fils, et puis on est sauvé pour la foi, cette foi que nous avons en Jésus, elle doit grandir chaque jour. Augmente-nous la foi. Il ne faut pas que notre foi demeure petite. Il faut qu'elle grandisse. Et la foi grandit quand, justement, on prend Dieu au mot et que l'on met en pratique ce qu'on a déjà compris. Pour que vous ayez plus de foi, il faut d'abord que vous mettiez en pratique ce que vous avez compris. Et alors le Seigneur vous donnera plus de connaissances. Mais le Seigneur désire augmenter notre foi. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Et nous avons vu qu'Enoch, lui, c'est par la foi qu'il a eu au sein d'une génération corrompue et perverse, qu'il a eu le témoignage d'avoir plu à Dieu, d'avoir été agréable à Dieu. Mais tout cela devait nous amener à ces versets que je viens de vous lire, à célébrer un culte qui soit agréable à Dieu par Jésus-Christ. À lui offrir des victimes spirituelles, des sacrifices spirituels. Pas comme dans l'ancienne alliance, comme les Juifs devaient apporter des taureaux, des agneaux et des boucs. Ce que le Seigneur désirait, c'était le fruit des lèvres, une consécration de leur cœur. Alors, maintenant je vais vous ouvrir mon cœur. Vous avez vu la parole. Hier soir, j'ai écouté. Et j'ai pensé que le Seigneur ne voulait pas que cette fin de semaine nous ait donné seulement des connaissances théoriques sur ce qui est agréable au Seigneur. Mais que le Seigneur voulait nous amener plus loin. Car il est dit dans ce chapitre 5 des Éphésiens que le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Alors, si nous sommes dans la lumière, nous aurons de la bonté les uns pour les autres. Nous aurons aussi de la justice les uns pour les autres. Nous n'aurons pas un esprit d'accusation. Et puis, nous aurons aussi de la vérité. Il faut être vrai. Sans ça, tout ce que nous avons vu
la paille. Le fruit de la lumière consiste en toute bonté, toute justice et toute vérité pour examiner, pour éprouver ce qui est agréable au Seigneur. Et je me suis rendu compte hier soir que beaucoup ne connaissaient pas leur propre religion. Et je veux être droit et ne pas biaiser. Saviez-vous qu'il est interdit par les dogmes de communier avec des personnes qui ne sont pas, si je parle de l'Église romaine, de l'Église romaine. C'est interdit. L'intercommunion est interdite. Vous me direz, mais chez nous, dans l'Église romaine, si vous vous avancez, le prêtre vous donnera la communion. Ça, je ne connais pas. Il ne sait pas que je suis d'origine protestante. Comprenez-vous? Alors, il distribue cela. Mais je veux être droit et je vous le déclare. Il n'est pas permis à un catholique romain de communier, le sachant et le voulant, avec d'autres croyants. Ce qu'on appelle les frères séparés. C'est clair. Bien sûr que vous pouvez vous avancer. Personne ne sait ce que vous êtes. Mais moi, je ne le ferai pas. Parce qu'il faut que j'ai une conviction. Et je me souviendrai toujours de cette soirée à Montréal de 1970. Je ne vous raconte pas des histoires. C'était le jour après l'assassinat de qui ? De Pierre Napart. Et on avait invité dans un colloque, c'était au centre Montfortin, à Montréal, pour 3 journées. Et j'étais le seul qui n'était pas romain. Et il a été dit, nous avons une peine profonde, parce qu'il y a parmi nous un homme que nous reconnaissons comme un frère réellement en Jésus-Christ, mais auquel, à cause des lois de l'Église, nous ne pourrons pas donner la communion. Mais nous voudrions quand même qu'il soit avec nous. Et c'était tous des responsables dans l'Église romaine. J'ai assisté. Et ils communiaient sous les deux espèces, parce qu'ils voulaient revenir à la parole. Et forcément, moi, je n'ai pas communié. Et plusieurs de ces prêtres ont eu comme une révélation, ils se sont mis à pleurer. Je me dis, c'est pas possible. Ils n'avaient jamais réalisé cela. Si je m'étais approché ou s'ils m'avaient dit, on te reconnaît, etc. Rien ne se serait passé. Tout le monde était heureux. Mais grâce à cette souffrance profonde, il y a plusieurs... un ami qui est à Lyon qui a beaucoup travaillé au Concile de Rome, et il m'a écrit au début de la semaine passée, est venue une rencontre entre catholiques et croyants protestants ou évangéliques, et il disait ceci, nous avons fait le jeûne eucharistique. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous n'avons pas communié. Parce que ce n'est pas permis. Alors nous nous sommes abstenus de faire l'Eucharistie. Parce que quand il y a des protestants et des catholiques, il faudrait faire deux tables. Or combien il y a de tables réellement? Elle s'appelle comment cette table? La table
du
Seigneur. La table du Seigneur. Et voilà qu'aujourd'hui, eh bien, il y a la table des orthodoxes, il y a la table des catholiques romains, puis il y a la table des protestants, des évangéliques. Alors il faut une communion. Réelle. Et est-ce qu'il y a communion réelle? Qu'est-ce que c'est que l'Eucharistie? C'est le repas du Seigneur qu'il a institué lui-même, alors reprenez ce récit. Pour que vous soyez convaincus de ce que c'est. Qu'est-ce que le Seigneur a fait dans cette soirée? Il a pris le pain de la table et puis il a rendu grâce. C'était du pain comme le pain qu'il mangeait à ce souper pascal. Puis il a dit, ceci est mon corps. Faites ceci en mémoire de moi. Est-ce que chacun s'est jeté sur le Seigneur pour prendre un morceau? Ceci est mon corps. Qu'est-ce qu'il a dit aussi Jésus? Je suis la porte. Alors la porte, qu'est-ce que vous voyez quand Jésus dit je suis la porte? C'est la porte là, des toilettes ou la porte de sortie? Qu'est-ce que c'est une porte? C'est une issue. Quand il a dit je suis la vigne, je suis le cep de vigne. Est-ce que vous dites que Jésus c'est un cep de vigne? Non. Il a parlé là en image. Quand il dit je suis le chemin, est-ce que Jésus est une route goudronnée ou une route pavée? Il est la voie. Alors comprenez bien. Nous sommes appelés à offrir des sacrifices spirituels et ne pas matérialiser ces choses. Mais quand nous rappelons le sacrifice du Seigneur, l'unique sacrifice qui ne peut pas être renouvelé, l'Écriture le dit. Il n'est pas question du renouvellement du sacrifice, il est question d'une actualisation. Nous nous replaçons devant le seul sacrifice, celui du Seigneur Jésus, qui a été fait une fois pour toutes. Et nous participons au signe qu'il a établi. Le pain qui nous représente son corps et le vin qui nous présente son mais en prenant le pain, nous ne faisons pas que manger un morceau de pain. Nous entrons réellement en communion, si nous sommes au Seigneur. Ce n'est pas quelque chose de machinal. Nous entrons réellement en communion avec le Seigneur et nous manifestons les uns à l'égard des autres que nous sommes membres d'un même corps. À la table du Seigneur se manifeste où devait se manifester l'unité du corps de Christ. Or, dans la suite des âges, on a fait de la table du Seigneur et de cette suprême action de grâce, c'est ça que veut dire Eucharistie. Eucharistie, c'est la suprême action de grâce. Dans tout culte que l'on célèbre, il devrait y avoir cette suprême action de grâce. Tout devrait conduire vers ce désir d'obéir à l'ordre du Seigneur qui a dit « Faites ceci en mémoire de moi ». C'est un véritable mémorial, mais c'est une communion réelle avec le Seigneur et les uns avec les autres. On ne communie pas pour soi. Moi je viens, puis je communie, puis je m'en mêle. Sans avoir du contact avec mes frères. Voilà ce que nous apprend la parole de Dieu. Alors évidemment, au début, on appelait cela simplement la fraction du pain, le souper du Seigneur, la scène, ou, si vous voulez, le terme grec, c'est l'Eucharistie, la suprême action de grâce, parce qu'il a dit, faites ceci en mémoire de moi. Mais après, on a voulu définir, et c'est en voulant définir ce qui reste un mystère. Le Seigneur nous a tellement aimé qu'il a donné sa vie, et quand il s'est donné, il a donné vraiment son corps en sacrifice. Il a réellement versé son sang. Son sang a été répandu, donc il y a quelque chose de réel. Mais on a voulu définir cela. Alors on a appelé cela la transsubstantiation. Et l'on a commencé à dire que le prêtre, en consacrant le pain et le vin, avait ce pouvoir de changer ces matières en corps et en sang du Seigneur. Mais vous vous rendez compte, ben, vous croyez cela. Si vous croyez cela, ben alors vivez en conséquence. Vous vous rendez compte. Si c'est cela, quel jour devrions-nous être? Mais Jésus est ressuscité. Jésus est dans la gloire. Et il désire que nous nous souvenions que c'est là que qu'est notre bourgeoisie. Nous n'avons pas ici-bas de cité permanente. Notre bourgeoisie est dans les cieux. Alors, mes bien-aimés frères et sœurs, moi, pour ne pas vous scandaliser, je suis venu à vous. Je ne savais pas qui je rencontrerai. Eh bien, je préfère ce matin, moi-même, pour ne pas juger ceux qui viennent de l'Église catholique, et je reconnais qu'il y a de vrais enfants de Dieu dans l'Église catholique, je préfère m'abstenir, moi-même, de la communion, en demandant au Seigneur qu'il montre bien que nous ne sommes pas, nous, un groupe qui mangeons et qui buvons la communion du Seigneur et qui méprisons les autres. Je voudrais que vous soyez au clair sur le sens profond de la Sainte Cène. Faites ceci en mémoire de moi. Et je me suis rendu compte que beaucoup aussi ne comprenaient pas le sens du baptême. Et là encore, je vais vous donner un récit tout à fait vécu. C'était en 1976. Au grand séminaire de Montréal, j'avais été invité, puis on savait que je partais en France,
et que j'aurai l'occasion de rencontrer plusieurs personnages assez importants. Et là, c'était un milieu entièrement catholique, des frères et des sœurs, et ils m'ont dit, sur un film, ils vous supplient, essayez de parler à ces autorités ecclésiastiques pour qu'il y ait un changement. Nous n'en pouvons plus de ce folklore qui est devenu le baptême. Ce sont leurs propres paroles. Parce que le baptême, c'est devenu un folklore. Et des hommes conséquents, par exemple des prêtres qui sont encore prêtres, mais qui voudraient revenir à la parole, mais voilà quelqu'un qui n'est jamais venu à l'église, qu'ils ne connaissent pas, ils n'ont pas vu du tout, mais voilà qu'ils ont un enfant. Et on vient à l'église en disant, nous voudrions baptiser notre enfant. On sait qu'il est cette paroisse, parce qu'à cause de son adresse, mais ils ne sont jamais venus à l'église, mais ils veulent le baptême. Alors le prêtre, et je l'ai vu pleurer en me disant ça, j'ai essayé de leur dire à ses parents, mais pourquoi voulez-vous faire baptiser votre enfant? Ils n'ont pas entendu plus. Quoi? Vous voulez nous refuser le baptême à notre enfant? Vous allez avoir nos nouvelles. Ils sont partis, ils ont téléphoné à l'évêque qui a saucé, si j'ose dire ainsi, le prêtre qui avait voulu éveiller l'attention de ces gens-là. Nous, on vient avec le vêtement blanc et tout cela, les dragées, puis on fait un festin. Puis après, ben, il y aura peut-être la confirmation. Si confirmation il y a. Et quand j'ai parlé à plusieurs, nous ne pouvons pas faire autrement, on ne pouvait pas faire autrement que confirmer, ça aurait fait un scandale dans notre famille. Mais donc, vous voyez, tout cela n'est pas normal. Il faudrait revenir à la parole et retrouver le sens profond du baptême. Il n'y a pas un baptême catholique, puis après un baptême évangélique. Il est dit qu'il y a un seul baptême. Et qu'est-ce que c'est ce seul baptême? Qu'est-ce que c'est que le baptême? La signification du baptême. Moi, je ne dis pas vous opposer les uns aux autres. Ou opposer des baptêmes. Baptême des enfants ou baptême des adultes. Parce qu'on peut très bien se faire baptiser adulte et ne pas être réellement au Seigneur. Qu'est-ce que c'est que le sens profond du baptême? Autrefois, on disait que c'était l'effacement de la tâche originel. Puis maintenant, bien, on a changé, surtout depuis le Vatican II. J'ai téléphoné un jour à celui qui était doyen de la faculté de théologie et catholique, et je lui ai demandé, mais qu'est-ce que c'est pour vous le baptême? Il m'a répondu, mais Gaston, c'est notre identification au Christ dans sa mort et sa résurrection. Et il n'était pas l'effacement d'une tâche originelle, non, non. C'est Romains 6, alors étudié, et Colossiens 2. Mais j'ai dit, mais beaucoup de vos prêtres ne prêchent pas ça. Oh oui, mais ils sont toujours en retard. Oui, mais le peuple n'est pas enseigné dans la parole. Et c'est si vrai cela, que dans les grandes conférences qu'il y aura au mois de juillet à Vancouver, les trois grands thèmes qui seront traités entre catholiques et protestants, c'est quoi? L'Eucharistie, hein? Qu'est-ce que c'est au fond? Qu'est-ce qui se passe? Et puis, le baptême, qu'est-ce que c'est que le baptême? Et puis, le ministère. Parce qu'il y a encore une chose que je dois vous dire. Personnellement, moi, bon, on m'a demandé ou on m'accepte quelquefois pour prêcher dans une église catholique, mais je ne suis pas, selon l'Église romaine, consacrée par un évêque. Et pour pouvoir distribuer la Sainte Cène, selon Rome, il faut avoir été consacré par un évêque. Alors nous, les pasteurs protestants des églises réformées bien établies, ne sont pas encore reconnus comme de vrais ministres, parce qu'ils ne sont pas dans ce qu'on appelle la succession apostolique. Or, qui est le souverain sacrificateur? Qui est-ce qui a le vrai sacerdoce? Un sacerdoce qui ne se transmet pas. C'est l'Écriture qui le dit. L'Épître aux Hébreux. C'est Jésus. Et à quoi est-ce que nous croyons? Qu'est-ce que disait saint Paul? Il disait à Timothée, les choses que tu as, que je t'ai enseignées, que tu as reçues, eh bien, apportez à des hommes qui soient fidèles et capables d'instruire les autres. Ce que l'Écriture nous montre, ce n'est pas une hiérarchie, ce sont des frères. Vous êtes tous frères et il y a un seul Seigneur. Et nous avons tous part au sacerdoce universel. Voilà ce que l'Écriture nous dit au sujet du ministère. Alors, mes amis, c'est cela que je voulais soulever auprès de vous. Ne vous opposez pas les uns aux autres. N'essayez pas de convaincre vous-même l'autre qui a tort, soi-disant. Mais demandez-vous, mais quel est le sens profond du baptême? L'apôtre Pierre dit que c'est pas l'engagement, mais la demande d'une bonne conscience envers Dieu. Alors quand on lit le livre des Actes des Apôtres, on voit que l'évangile était prêché au peuple, les gens qui se convertissaient, qui se tournaient vers le Seigneur, disaient, mais que ferons-nous, frères? Et Pierre leur disait, repentez-vous et croyez au Seigneur Jésus. Et soyez baptisés pour la rémission des péchés. Il y avait l'enseignement d'abord. Alors, au début, pour bien montrer que c'était notre identification en Christ dans sa mort, le baptisé était plongé dans l'eau. Parce qu'il était comme enseveli, image de sa fin, de la fin de sa vie pécheresse, de sa vie charnelle, et puis il en sortait image d'une vie nouvelle. Alors, c'était pour lui l'occasion de confesser sa foi. Alors, quand on a introduit la pratique du baptême des enfants, eh bien, comme l'enfant, le bébé, ne peut pas s'engager, qu'est-ce qu'on a ajouté? Pour qu'il y ait quand même un jour un engagement. La confirmation. Alors, les parents s'engagent à élever leurs enfants dans la foi chrétienne. Mais il ne faut pas que ce soit simplement un rite. Certes, si les parents ont réellement compris que c'était l'identification Christ dans sa mort, comme Calvin lui-même, le réformateur, le disait, Christ est-il mort pour votre enfant? Qu'est-ce que vous dites? Oui. Alors, vous acceptez que Christ est mort pour votre enfant, et le baptême est quoi? Le signe de sa mort. Alors, vous ne voulez pas qu'il emporte le signe. Mais, c'est pas le baptême qui va sauver l'enfant. C'est quoi? C'est la foi. C'est la foi de cet enfant quand il grandira et qu'il prendra lui-même une décision pour le Seigneur.
Mais il n'est pas question de rebaptême. C'est pourquoi moi je ne pousserai pas quelqu'un qui pense vraiment que ses parents l'ont présenté à Dieu dans la foi qu'il était un de ceux pour lesquels le Seigneur était mort. Et bien tant que vous avez cette conviction, que vous avez été présenté ainsi, je ne ferai pas du baptême un obstacle. Je vous demande d'être seulement convaincu. Et je dirais aussi que ce n'est pas la quantité d'eau qui fait la réalité de votre baptême. C'est votre foi au Seigneur Jésus. Parce que sans ça, de nouveau, nous faisons du baptême le moyen de salut. Or, ce n'est pas le moyen de salut, le baptême. Qu'est-ce qu'est le moyen de salut? La foi. Et le baptême en est le signe. Quand est-ce que Christ est mort? Au moment où vous êtes baptisé? Il est mort il y a bientôt 2000 ans. Et cette mort est valable. Vous confessez simplement la chose au moment de votre immersion. Mais si vous croyez au sens profond du baptême, et si vous n'êtes pas convaincu que vous devez vous faire immerger, eh bien je laisse cela au Seigneur. Comprenez-vous? Parce que sans ça, si vous faites simplement une pression, ou que vous pensez, ben, si je me fais baptiser, alors j'aurai des grâces spéciales, bien sûr que dans toute obéissance, quand c'est vraiment une obéissance, on a le bénéfice de notre obéissance au Seigneur. Mais si c'est simplement pour faire partie d'un autre groupe qui fait du baptême le registre des membres de sa communauté, ce n'est plus biblique non plus. Comprenez-vous? Ce n'est plus biblique non plus. Alors que chacun soit convaincu par la parole du Seigneur. Et quant au ministère, le père de ma femme a été missionnaire 40 ans en Chine. Et quand on lui demandait pourquoi il était devenu missionnaire, vous savez ce qu'il disait? Parce que j'ai été consacré? Parce que le Seigneur m'a appelé. Vous pourriez lire le livre qu'a écrit un évêque qui est mort accidentellement, Monseigneur Ryobé d'Orléans, où il nous dit comment il s'est converti. Une fois qu'il était évêque, mais on peut aller jusque-là sans être converti. J'ai entendu un cardinal me dire, depuis ma conversion, j'ai dû changer bien des choses dans ma théologie. Alors je vous le demande, ne jugez pas les autres. Chacun sera jugé par le Seigneur d'après ses prétentions et les lumières que nous avons reçues. Ce n'est pas à moi de juger le pape. J'ai à prier aussi pour lui. C'est le Seigneur qui est juge. Alors je vous en supplie, ne commencez pas quand vous êtes en contact les uns avec les autres à démolir l'autre. apporté Jésus. Remplissez les âmes de Jésus, de la plénitude de son esprit. Encouragez-les à lire les Écritures, afin que chacun ait une conviction. Et quand cette conviction vous sera donnée, alors vous agirez. Non pas pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu, pour plaire au Seigneur. Et encore une fois, je le répète avec cette dernière parole, laissez-vous faire par Dieu. C'est lui qui fera en vous tout ce qui lui est agréable. Et que maintenant, ce culte d'adoration en esprit et en vérité puisse s'accomplir sous le regard de Dieu, dans le jugement de nous-mêmes et dans la dépendance complète du Saint-Esprit. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté et fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ. Auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen.